Wilhelm Hoff, La caravane, conte oriental. Un jour, une grande caravane traversait le désert et rien n'apparaissait encore sur la plaine immense que le sable et le ciel, mais déjà l'on entendait vaguement résonner dans le lointain les clochettes et les grelots d'argent des chameaux et des chevaux. Un épais nuage de poussière soulevé par la marche des voyageurs ne tarda pas, du reste, à annoncer leur approche, que révélait en même temps, chaque fois qu'un souffle d'air venait balayer la plaine, une sorte de fourmillement lumineux produit par le reflet du soleil sur les armes et les costumes. Ainsi se présenta la caravane aux yeux d'un personnage qui, de son côté, s'avançait à la rencontre, monté sur un cheval magnifique. Les flancs du noble animal étaient recouverts d'une large peau de tigre, autour de laquelle cliquetaient, suspendus à des courroies de couleur amarante, des grelots de métal et des croissants d'ivoire entremêlés de grosses houppes de soie, tandis que sa tête balançait avec fierté un élégant panache de plumes de héron. Le costume du cheval cavalier répondait au splendide harnachement de sa monture. Un turban blanc brodé d'or tranchait vivement sur la pelisse et ses larges pantalons rouges. Des bottes de maroquin, chamarrées de dessins multicolores, voltigeaient et protégeaient ses jambes et sa ceinture de cachemire que ceignaient ses reins, supportait, en le laissant voir à demi, un riche yatagan au fourreau ciselé, au pommeau d'agate, et dont la lame devait être à coup sûr du plus fin acier de Damas. Quant au cavalier lui-même, il avait quelque chose d'étrange et de farouche à la fois. Son turban profondément enfoncé sur son front, ses yeux qui reluisaient d'un feu sonore, sombre, sous ses sourcils touffus, sa large barbe descendant à flots épais sur sa poitrine, et enfin son nez recourbé comme le bec d'un oiseau de proie, tout contribuait comme à lui donner une mine fière et sombre devant laquelle il était impossible de se défendre d'une certaine émotion. Lorsque le cavalier ne fut plus qu'à 50 pas de l'avant-garde de la caravane, il rendit les rênes à son cheval, qui le porta en un clin d'œil à la tête du convoi. C'était un événement si extraordinaire de voir chevaucher un homme seul à travers le désert, que les éclaireurs, craignant une surprise, abaissèrent aussitôt la pointe de leurs lames. Mais à qui en avez-vous? Cria le cavalier en se voyant reçu si belliqueusement. Croyez-vous donc qu'un seul homme puisse arrêter votre caravane? Les éclaireurs, confus de leur précipitation à se mettre en défense, relevèrent leurs lances, tandis que leur chef s'approchait de l'étranger pour savoir de lui ce qu'il désirait. Quel est le maître de cette caravane? Demanda le cavalier. Oh, elle n'appartient pas à une seule personne, répondit celui auquel il s'adressait, mais à plusieurs marchands qui reviennent de la Mecque dans leur jarne et que nous accompagnons à travers le désert afin de les protéger contre une mauvaise rencontre. Mais conduis-moi donc auprès des marchands, demanda l'étranger. Le pupa en semant, répondit le guide. Il nous fait pousser plus loin, sans retard. Et d'ailleurs, les marchands sont au moins un quart d'heure en arrière de nous. Mais si vous voulez chercher avec moi jusqu'à ce que nous arrêtions pour le repos de midi, il ne sera pas possible alors de vous satisfaire. L'étranger ne fit aucune réflexion. Il prit une longue pipe qui était attachée à l'arçon de sa selle et se mit à fumer à large bouffée, tout en marchant à côté du conducteur de l'avant-garde. Celui-ci, fort intrigué par la soudaine apparition de cet inconnu, ne savait pas trop comment se comporter à son égard. Il aurait bien voulu savoir son nom, mais il n'osait pas le lui demander directement. Il s'efforçait à engager adroitement la conversation. Et après avoir longuement ruminé, il crut enfin avoir trouvé une entrée en matière assez convenable. Se tournant donc tout à coup vers l'étranger, en esquissant un sourire gracieux, « Oh, vous fumez là de bon tabac !» s'écria-t-il. « Oui, fit l'inconnu d'un ton bref, en continuant à respirer à intervalles égaux la vapeur du haschich de CD. Et ce fut tout. Ce oui, tout sec, déconcerta un peu notre curieux, mais il ne voulut pas cependant se tenir pour battu. Pendant un gros quart d'heure encore, il martela dans son cerveau, d'où il tira enfin cette phrase qui lui paraissait tout à fait triomphante et d'un effet irrésistible sur l'esprit d'un arabe. Votre cheval a une fameuse allure, seigneur. Oui, répondit l'inconnu, souriant imperceptiblement, et secouant la cendre de sa pipe, il la laissa retomber à ses côtés sans ajouter une syllabe. Deux fois repoussé avec perte dans ses tentatives de dialogue, le pauvre garde comprit qu'il devait se résigner à ne rien savoir. Aussi bien avait-il plus le temps de chercher quelque autre moyen d'en venir à ses fins, on était arrivé à l'endroit où on devait faire la halte de midi. Après avoir posé ses gens sentinelles, le guide s'arrêta lui-même avec l'étranger pour laisser arriver le gros de la caravane. 30 chameaux pesamment chargés et accompagnés de leurs conducteurs se présentèrent d'abord et eurent bientôt suivi de 5 marchands dont avait parlé le guide. C'étaient pour la plupart des hommes d'un âge déjà avancé et d'un extérieur sérieux et grave, un seul excepté, qui paraissait beaucoup plus jeune que les autres, comme aussi plus vif et plus gai. La grande quantité de chameaux et de chevaux de rapport fermait la marche. Le campement fut établi aussitôt. Les marchands au centre et autour d'eux les gens de leur suite. Un peu plus loin, les chameaux et les chevaux, et plus loin encore, formant le cercle, les gens de l'escorte, avec de longues lances, dont le fer se détachait aigu et menaçant sur le bleu du ciel. Une vaste tente de soie rayée de rouge et de blanc se dressait au milieu des autres et se distinguait, entre autres, par son ampleur et sa magnificence. Au moment où le conducteur de la caravane en souleva le rideau, afin d'y introduire l'étranger, les 5 marchands, accroupis sur de riches coussins, venaient de commencer le repas. Des esclaves éthiopiens les servaient et circulaient autour d'eux, silencieux et rapides comme des ombres. Qu'y a-t-il ? S'écria l'un des marchands en apercevant le guide. Mais avant que celui-ci eût trouvé une formule d'introduction convenable, l'étranger prit la parole et dit « Je me nomme Selim Baruch. Je suis de Bagdad. Je revenais d'un pèlerinage à la Mecque en compagnie de plusieurs de mes compatriotes, lorsqu'à 2 journées d'ici environ, une bande de voleurs nous attaqua et me fit prisonnier. J'ai réussi à tromper la vigilance de mes gardiens et à m'échapper de leur camp. Mais, perdu au milieu du désert, seul, sans ressources d'aucune sorte, sans aliments, sans eau, sans guide, j'errais au hasard et je n'aurais pas tardé à périr, sans doute, ou à tomber dans quelque nouvelle embuscade, lorsque le prophète a permis que j'entendisse dans le lointain les clochettes de votre caravane. Il me vit avancer alors à votre rencontre. Permettez-moi de voyager dans votre société. Vous n'aurez pas secouru un ingrat, je vous le dis. Et si jamais vous venez à Bagdad, peut-être me sera-t-il donné de pouvoir vous obliger à mon tour. Je suis le neveu du grand vizir. Selim Baruch, dit le plus vieux des marchands, d'un ton à la fois cordial et grave, sois le bienvenu sous notre tente. C'est une grande joie pour nous de pouvoir te venir en aide. Assieds-toi donc, et mange et bois avec nous. Et Selim Baruch prit place à côté des marchands, il mangea et but avec eux. Après le repas, les esclaves apportèrent des sorbets et des pipes, et les marchands se mirent à fumer, silencieux et graves. Rangés autour de la tente, immobiles, les jambes croisées, le dos enfoncé dans de moelleux coussins, les yeux à demi voilés, leur esprit paraissait entièrement absorbé dans la contemplation des nuages de la fumée bleuâtre qu'en jetait leur bouche muette, et qui montait et se perdait dans l'air en se tordant en spirale capricieuse. Aucun bruit ne s'élevait au dehors, si ce n'est à longs intervalles le hennissement plaintif de quelques cavales cherchant l'air et n'aspirant que le sable embrasé. Alors le plus jeune des marchands rompit enfin ce silence méditatif et, s'adressant à ses compagnons, « Voici 3 jours, déjà, s'écria-t-il après un long bâillement, que nous sommes aussi à cheval ou à table, en marche ou en repos, sans distraction, sans plaisir d'aucune sorte. Pour ma part, cela commence, je vous l'avouerai, à m'ennuyer furieusement. Et d'autant plus que j'aime assez, après le repas, à me procurer quelques divertissements. Danse ou musique, qu'importe. Cela aide à la digestion et repose l'esprit des sérieuses pensées. Voyons, mes chers amis, je péris d'ennui si vous ne venez à mon aide. Ne savez-vous donc rien, dites-moi, qui puisse rompre un peu la monotonie de nos journées ? Les 4 vieux marchands fumèrent plus fort et parurent se ranger et se plonger plus profondément encore dans leur méditation. Mais l'étranger, prenant la parole, « Permettez-moi, dit-il au jeune homme, de vous faire une proposition. Les plaisirs que nous pouvons nous procurer, ici, ne sauraient être très variés, sans doute. Mais si l'un de nous voulait bien cependant raconter aux autres, à chaque halte, quelque histoire, quelque aventure de sa vie, ou mieux encore, de quelqu'un de ses contes si plaisants, qui se transmettent de génération en génération, qui ont abusé l'enfance de nos grands-pères avant la nôtre et qui égayeront après nous nos arrière-neveux, peut-être que cet intermède pourrait déjà, faute de mieux, nous apporter un peu de distraction. Selim Baruch, tu as bien parlé, dit Ahmed, le plus vieux des marchands. Nous agréons ta proposition. Oh, je ne sais rien pour ma part de plus amusant que les contes d'enfants. L'action y est vive toujours et jamais ne s'attarde et ne se noie en de longs verbiages. Les événements ne s'y déroulent que sont faux, impossibles, absurdes souvent, si l'on veut, mais les sentiments des personnages sont réels, humains, et c'est là l'essentiel. À mon sens, c'est la seule vérité dont on doit s'inquiéter, sans mesure, sans matière de compte. Enfin, et pour considération dernière, les cinq marchands se rapprochèrent joyeusement les uns des autres et firent asseoir l'étranger au milieu d'eux. Attentifs aux moindres signes, les esclaves accoururent. Aussitôt, les tasses furent remplies, les pipes chargées, l'eau des aiguillères renouvelée et des charbons ardents apportés sous le feu pour les allumer.